la question qui m'a été posée, comment concilier un ministère public et une vie de famille? Alors, je vais partager mon propos en trois grandes parties. D'abord, je vais essayer de désembrouiller la question, parce que pour moi, c'est une question un petit peu embrouillée. Il y en a d'autres derrière que j'essaye de deviner. Ensuite, je vous apporterai quelques apports théologiques, historiques, pratiques et bibliques, parce qu'on va bien devoir passer par là aussi. Et enfin, je vous parlerai des tensions du ministère pastoral, parce qu'il y en a, bien entendu, comme dans tout travail, comme dans toute vocation. Et nous terminerons par un temps d'échange, donc là je ne parlerai plus, et vous prendrez la parole pour donner vos avis, poser des questions et partager des choses ensemble. Alors, une petite mise au point que Solange a fait tout à l'heure, mais je tiens à la redire. Nous sommes détendus d'être ensemble, heureux d'être là. Protestants, catholiques, orthodoxes, juifs, peut-être musulmans ou agnostiques. Et il est bien entendu que les querelles ne sont pas à l'ordre du jour maintenant, sont même inutiles et même pour moi relèvent du contre-témoignage. Nous sommes un, et puis si nous parlons pour la religion chrétienne, dans la Bible, dans les évangiles, Jésus-Christ n'a jamais parlé de se rattacher à l'Église catholique ou à l'Église protestante. Nous n'appartenons pas à une Église, mais nous appartenons à Jésus-Christ pour les chrétiens. Et puis, vous connaissez cette histoire, quand nous arriverons au ciel, Jésus ne nous demandera pas « Ô Dieu, de quelle Église sommes-nous ?» mais il nous demandera « As-tu cru en moi ?» Voilà, donc... Je ne suis pas là pour polémiquer, pour me disputer, pour convaincre qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais je suis là pour partager avec vous ce qui me fait vivre et qui fait vivre, j'en suis sûre, beaucoup aussi d'entre vous, c'est-à-dire l'Évangile. Alors donc, je redis la question du jour, comment concilier ministère public et vie de famille ? Alors je vous avoue que quand Solange m'a parlé pour la première fois de cette question, j'ai souri et au fond de moi j'étais amusée, mais dans le sens tout à fait d'amitié et de fraternité. Parce que finalement pour nous les protestants c'est une question un peu étrange. Et on est presque amusé de voir combien ça intrigue et que nos amis catholiques sont intrigués de voir mais comment est-ce possible ? Alors du coup, c'est avec un plaisir d'autant plus grand que je suis là pour vous faire part de nos conceptions réformées et protestantes. Alors j'ouvre ici une parenthèse de terminologie, parce que c'est important. Soyons bien clairs sur le mot réformé, sur le mot protestant, est-ce que c'est la même chose ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'Église réformée ? C'est une église donc effectivement protestante issue de la réforme. La réforme c'est le mouvement au XVIe siècle qui s'est séparé de l'église catholique romaine et qui a donné lieu à la création des églises protestantes. Mais aujourd'hui il y a différentes églises protestantes dont l'église réformée, dont également des églises évangéliques. Voilà, vous avez peut-être entendu tous ces noms. Souvent, on fait un petit peu un mélange et c'est important de repréciser ces choses-là. Alors, nous sommes tous évangéliques, puisque nous nous réclamons en tout cas les catholiques, les protestants et les orthodoxes de l'évangile. Mais ne me dites pas une église évangéliste. Les évangélistes, il y en a quatre, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont des rédacteurs d'évangiles. Alors, qu'y a-t-il donc derrière cette question pour qu'elle soit au cœur d'une curiosité ou d'un partage entre nous ? Finalement, cette question, c'est qu'est-ce qu'un pasteur ? Peut-être par rapport à la figure du prêtre que les catholiques connaissent bien. Eh bien, je crois que ce n'est pas si évident de pouvoir distinguer et faire des différences tellement contrastées entre ces différentes figures. Et il n'est pas évident non plus de répondre à la question « qu'est-ce qu'un pasteur ?». Alors, j'ai beaucoup ici de paroissiens fidèles de l'Église réformée. Je suis très heureuse qu'ils soient là avec moi cet après-midi. Et je suis sûre que si je vous demandais à chacun pour vous qu'est-ce qu'un pasteur, en un mot, vous me donneriez tous un mot différent. Et si je demande aux autres qu'est-ce qu'un prêtre, ou si je demande à, voilà, à ceux qui ne pratiquent pas dans une église, qu'est-ce que représente pour vous, qu'est-ce que devrait représenter un prêtre ou un pasteur, eh bien je vais vous le demander maintenant, et vous allez me le dire. Alors il y a un paperboard, alors j'aimerais vous entendre, mais ne me dites qu'un mot, hein, ne me faites pas de longs discours. Alors guide. Voilà, chacun pour lui, le prêtre ou le pasteur, ou voilà. Alors, d'autres mots.
Un berger.
Alors, berger. Représentant. Berger représentant. Oui.
Un guide spirituel.
Guide spirituel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Référents. Alors, guide, berger, représentant, référent, est-ce qu'il y a d'autres idées ?
Prêcheur.
Engagé.
Consacré, voilà, avec l'idée de mission derrière. Et puis, excusez-moi, j'avais pas entendu. Engagé, c'est ça, hein, voilà. Un passeur, oui. Oui.
Animateur.
Homme ou bien femme de Dieu.
Excusez-moi, j'ai...
Homme ou bien femme de Dieu. Oui, homme de Dieu ou femme de Dieu. Est-ce qu'il y a encore une ou deux idées ?
Un humain.
Humain. Voilà, une dernière idée.
Moi, j'avais une idée, c'était qui pourrait être le porteur de l'unité de la communauté, de la prière de la communauté.
Rassembler, un petit cette idée de rassembler.
Rassembleur.
Rassembleur, c'est pas un mot très joli, mais on peut l'exprimer comme ça. Rassembleur, et puis monsieur.
En lien avec Dieu et les hommes.
En lien, c'est ça? En lien avec Dieu et avec les hommes. Bien, eh bien merci beaucoup. Alors voilà, ce petit jeu, maintenant, si je vous demande de séparer tous ces termes avec d'un côté les catholiques et de l'autre les protestants, est-ce qu'on y arriverait ? Est-ce qu'on y arriverait ? Non. On n'y arrive pas. Alors peut-être juste, je mettrai un bémol sur consacré.
Oui, la différence, c'est homme-femme.
Alors aussi, mais là à chaque fois, les voilà, très diplomate, vous avez à chaque fois dit homme ou femme, voilà. Mais le petit bémol, ça serait juste consacré, parce que chez les protestants, on n'utilise pas ce terme. Mais l'idée est la même. C'est ça, voilà, voilà. Mais par exemple, si vous, voilà, effectivement, c'est une histoire de terme. Nous, on parle de reconnaissance d'un ministère, voilà. Mais c'est une terminologie là aussi différente. Donc vous voyez, c'est intéressant. C'est nos attentes, hein, qu'elles soient d'origine catholique, d'origine protestante ou autre, ne peuvent pas être différenciées. Hein. Et encore une fois, même dans une même famille communautaire, on peut avoir des attentes différentes. Vous voyez bien qu'entre attendre un animateur ou un prêcheur ou encore un guide spirituel, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, on a vraiment des accents différents. Alors, tout ça, c'est pour vous emmener un petit peu plus loin que notre question du départ. Alors justement, nous avons des confessions différentes, et il est important aujourd'hui pour partager ensemble sur cette question, on est obligé d'arriver sur les différences, on est obligé d'en parler. Hein, mais c'est bien, on va pas se disputer, mais on va exprimer ensemble nos différences. Alors, il y en a trois qui sont importantes. La première, c'est l'Eucharistie, donc on connaît tous. C'est actuellement peut-être celle qui nous fait peut-être le plus souffrir. Hein. Alors vous savez qu'Eucharistie, ça veut dire rendre grâce en grec. Hein. Alors très rapidement, hein, là je ne vais pas m'étendre parce que c'est de la théologie, mais il faut quand même en parler. Pour les catholiques, on a vrai corps et vrai sang dans la communion. Pour les protestants, c'est signifie, donc c'est un partage communautaire et c'est une présence spirituelle du Christ, mais non pas dans le pain et dans la coupe partagée. À mon avis, ce point-là ne sera jamais élucidé, sauf si on arrive à mettre notre orgueil de côté. Mais ça, malheureusement, comme quelqu'un l'a dit, on est tous humains, même les pasteurs et même les prêtres, et peut-être qu'on n'arrivera jamais à mettre notre orgueil de côté. Mais bon, on y arrivera un jour quand on sera tous réunis, mais pour le moment, c'est difficile. La deuxième grande différence qui nous sépare, c'est les questions d'ecclésiologie. Alors, qu'est-ce que c'est l'ecclésiologie ? Étymologiquement, c'est la parole, le logos, sur l'Église. Alors, pour des personnes catholiques, on peut dire que l'Église, c'est un petit peu ce qui reçoit de façon sacrée la parole de Dieu et sa manifestation. Hein, c'est dans l'Église que Dieu se manifeste. Pour des protestants réformés, l'Église, ça sera un lieu, une institution humaine, imparfaite, qui fera vivre cette parole de Dieu spirituellement. Alors là encore, vous voyez, il y a des différences de compréhension et du coup après de vécu partagé. Et la troisième différence, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle a trait au ministère. Hein, entre le ministère des prêtres, qui est un ministère consacré, c'est-à-dire le prêtre comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, et pour les protestants, la figure du pasteur qui n'est pas une figure mise à part, mais qui reconnaît ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Alors, ça, je suis obligée de m'arrêter sur ce gros mot. Qu'est-ce que c'est le sacerdoce universel ? Alors, ça vient du latin sacerdotium, c'est la fonction des prêtres. Et pour un protestant, cette fonction-là, elle est universelle. Les protestants disaient, les réformateurs, nous sommes tous prêtres. C'est-à-dire, nous sommes tous capables d'être en relation avec Dieu par nous-mêmes, par la lecture de la Bible, par la prière et par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas besoin d'un tiers humain pour atteindre Dieu. Alors, c'est bien sûr cette différence qui fait que, pour les protestants, une femme peut être pasteur et que, femme ou homme, les pasteurs peuvent se marier et fonder une famille, puisqu'ils n'ont pas une fonction à part, mais sont comme tout le peuple de Dieu, donc mènent leur vie comme ils l'entendent. Nous disons aussi, chez nous les réformés, que nous avons tous reçu une vocation. À partir du moment où nous sommes chrétiens, et que pour nous la vie spirituelle est importante, nous sommes tous appelés à servir l'Église et à annoncer la bonne nouvelle. Et ce n'est pas le rôle seulement du pasteur. Alors ça, c'est une grande responsabilité, hein, pour chacun, mais c'est de dire ce n'est pas le travail du pasteur seul, mais tout le monde, chaque chrétien, est appelé à être au service de Dieu. Nous disons aussi que nous avons tous reçu un appel en tant que chrétien, et que le pasteur a reçu un appel particulier, celui de conduire l'Église, celui de conduire une institution humaine, et celui d'y consacrer une partie de sa vie publique, mais aussi forcément de sa vie intime et privée. Chacun est mis à part dans cette idée de vocation, et chacun a reçu un appel particulier. Alors, juste, je m'arrête sur le mot « vocation ». Le terme vocation n'est pas réservé aux seuls prêtres et aux seuls pasteurs, on est bien d'accord. Beaucoup de métiers sont vécus comme des vocations. Peut-être qu'après, vous pourrez témoigner les uns et les autres de ce qu'a été ou ce qu'est un travail pour vous comme une vocation. Hein, pour en citer certains, travailler avec des enfants, travailler dans le social, avec des personnes en difficulté, travailler dans la médecine, dans une entreprise, et pourquoi pas même en politique. Hein. Les vocations ne sont pas réservées au milieu religieux. Et puis, je suis chrétien aussi quand je pars au travail la semaine. Alors vous tous qui n'êtes pas ni prêtre ni pasteur, vous travaillez en semaine. Alors si vous êtes chrétien, vous êtes aussi chrétien en semaine, j'espère. Hein? Votre vocation ne se manifeste pas uniquement le dimanche matin. Elle ne s'arrête pas aux portes de l'église ou du temple, mais elle rayonne pendant toute votre vie. Et ça, c'est important. Nous sommes tous les jours en vocation. Alors donc, je vous parlais de ce sacerdoce universel et bien sûr, en même temps, pour les pasteurs, un ministère spécifique de quelques-uns, avec des études consacrées à cela, des études de théologie, avec le symbole de la robe pastorale, hein, qui est l'équivalent de la robe pour les prêtres, la robe sacerdotale, mais elles n'ont pas le même symbole. Pour un prêtre, c'est donc une robe sacerdotale qui fait référence à la consécration au sacerdoce. Pour un pasteur, c'est une robe noire qui fait référence à un savoir, à une connaissance, c'est-à-dire à un niveau d'étude qui requis. Voilà, c'est plus du côté du savoir, mais ce n'est pas du côté de la consécration. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ce que vous nous racontez, mais dans le quotidien, ça se passe comment ? J'ai envie de vous répondre, parce que, alors voilà, forcément les prêtres sont célibataires, et parfois je me dis que si j'étais célibataire, j'aurais plus de temps pour mon église. Mais après je me rattrape en me disant, mais non, tu ne serais pas la même si tu étais célibataire, tu n'apporterais pas les mêmes choses aux paroissiens. Et je suis ce que je suis, et j'apporte ce que j'apporte, parce que aussi je suis épouse et mère, et je crois que ça joue forcément. Alors, entre parenthèses, la prêtrise date du XIe siècle. Hein, on pourra en reparler, je ne veux pas débattre là-dessus, mais de toute éternité, les prêtres n'ont pas été célibataires. Pendant 10 siècles, les prêtres étaient en famille. Quant au ministère féminin dans l'Église réformée, il date de 1946. C'est pas très vieux non plus, voyez. Hein, donc l'Église a évolué au rythme aussi de la société. Alors donc, au quotidien. Alors moi je vous réponds, ça va peut-être finir par vous agacer, par une autre question. Qui aujourd'hui ne jongle pas entre travail, conjoint, maison, enfant, loisirs ? Qui ? Voilà. Hein ? Alors moi, je fais partie de ces personnes qui jonglent, hein, qui essayent de jongler un peu tous les jours, hein, de temps en temps un peu plus que d'autres. En revanche, pour mon ministère, je ne suis pas toujours disponible. Alors là aussi, ça va peut-être choquer quelques-uns, on en reparlera tranquillement. Vous demanderez aux paroissiens réformés si ça les ennuie ou pas. Effectivement, il y a des moments où je souhaite, où il est important pour moi d'être dans ma famille. Voilà, de ne pas être toujours, je ne suis pas toujours disponible pour l'Église. Hein. Je crois que cela appartient à chacun, et encore une fois, ce n'est pas réservé au fait d'être pasteur ou prêtre. Hein, parce que vous connaissez sûrement des prêtres qui sont disponibles 24 heures sur 24, et vous en connaissez aussi sûrement qui doivent dire, écoutez, moi là je prends une demi-journée, à cette heure-ci je ne réponds plus au téléphone, vous me direz tout à l'heure, mais j'en suis persuadée. Et je connais aussi des collègues pasteurs qui vont répondre au téléphone en pleine nuit, ou voilà, hein, ou vont avoir des réunions tous les soirs de la semaine, et ça ne va pas leur poser de problème. Voilà, mais là je me permets de vous parler de mon expérience, puisque c'est la question qu'on m'a posée personnellement. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas une question de jugement, mais c'est une question de se connaître et d'essayer de trouver son équilibre entre une vie, un ministère public, et une vie privée qui compte aussi beaucoup. Et je dirais que pour moi personnellement, j'ai besoin de ces temps où je fais une coupure pour pouvoir me ressourcer et être d'autant plus disponible après. Et je crois que si je n'avais plus ces temps-là, je ne pourrais plus être à l'écoute, je ne pourrais plus apporter autant dans ma communauté. Alors, un autre plan de la question, je vais être obligée d'ouvrir la Bible. Parce qu'un protestant qui n'ouvre pas sa Bible, c'est un peu comme, je ne sais pas, un Tintin sans un Milou, un Bill sans un Boule, ou, hein, voyez, pour un protestant, la Bible, c'est important. Hein. Alors, je vais l'ouvrir et puis partager avec vous deux petits passages. Le premier, il est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17. Et cet évangile nous parle à ce moment-là, par la bouche de Jésus, de l'unité. Alors, il s'agit de la prière de Jésus, qui va prier pour ses disciples avant de mourir. Alors, Jésus dit, « Moi, je ne suis plus dans le monde, mais eux, mes disciples, sont dans le monde. » Alors, donc, déjà, on est tous des disciples, d'accord ? Pour nous, les pasteurs, moi je suis un disciple, comme un autre. Donc je suis dans le monde. Je ne suis pas appelée à être hors du monde. D'accord ? Je suis dans le monde. Moi, dit Jésus, je vais auprès de toi. Il prie son Père. Père Saint, garde-les par ta force de ton nom, le nom que tu m'as donné, ainsi ils seront un, comme toi et moi nous sommes un. Voyez ? La prière de Jésus à l'époque, hein, pour ses douze amis, et nous aujourd'hui, alors il doit en dire pour nous des prières. Hein. Il doit en dire pour nous. Alors il continue, « Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. » Alors là, maintenant, il dit que nous ne sommes pas dans le monde. Hein. Vous savez, c'est intéressant. C'est, en même temps, nous appartenons au monde, mais en étant avec Dieu, aux côtés de Dieu, nous sommes hors du monde. Mais tout cela, c'est tous ensemble. Alors, ce petit passage, pour vous redire cette vocation des disciples, d'être un, d'être unis, d'être dans le monde et en même temps d'être en Dieu. Et là, nous sommes bien tous ensemble. Un autre passage, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, quand Paul parle des dons de l'Esprit. Alors Paul nous dit qu'il y a des dons différents, c'est-à-dire que Dieu, par son Esprit, nous donne des dons à chacun. Il y a des façons de servir qui sont différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit. Alors ça aussi, c'est intéressant. Tout ce que nous savons faire, tout ce que nous faisons dans nos vies et dans notre Église, c'est Dieu qui nous le donne. Et pour moi, ça aussi, c'est une manifestation de nos différentes confessions. C'est-à-dire qu'on est différents, mais c'est aussi pour pouvoir annoncer des choses différentes et répondre à des attentes différentes. Mais encore une fois, ces différences, elles se manifestent dans l'unité. Hein? Ensuite, il y a l'image du corps. Vous connaissez ce texte. La main, le bras, tout ça c'est différent, mais pourtant c'est relié dans un même corps. Donc différents ministères, hein, le ministère du prêtre, le ministère du pasteur, le ministère du diacre, le ministère du visiteur, du prédicateur, du catéchète, un même appel et une même union en Jésus-Christ. Juste pour bien comprendre ce que je vous disais tout à l'heure dans l'histoire de sacerdoce universel, pour dire nous sommes tous au même niveau. Il ne s'agit pas en fait de diminuer, entre guillemets, de faire descendre le pasteur au milieu de ses fidèles, si on garde l'image du prêtre qui va se situer au milieu, mais plutôt d'élever tout le monde un peu plus haut et de dire à chacun de vous, votre rôle, c'est d'aller annoncer la parole. Hein? Et c'est pas de rester assis ou même couché, c'est de vous lever et d'aller annoncer la parole de Dieu. Alors, je reviens à notre question de départ. Vous avez peut-être l'impression que j'ai dressé un portrait facile, un peu idyllique. en disant ben, finalement ça n'a pas l'air si compliqué. J'ai un peu éludé à chaque fois la question, en vous posant d'autres questions, en vous emmenant ailleurs. Mais bien entendu, le ministère pastoral a aussi des tensions, hein, comme je crois partout. On ne vit pas parce qu'on est humain, on est en tension déjà tout seul. Donc, alors, si on fait quelque chose avec quelqu'un d'autre, il y aura forcément des tensions aussi. Alors, les tensions du ministère pastoral, je vais aussi les partager avec vous. Alors, il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas toutes vous les dire. J'en ai sélectionné quelques-unes et je m'aide d'un livre d'un théologien qui s'appelle Réenchanter le ministère pastoral. Alors j'en ai choisi deux tensions. La première, c'est, puisque c'est celle qui nous intéresse, la tension entre public et privé. On est exactement dans notre thème. La dimension privée de la vie du pasteur est souvent mise en avant pour normaliser le pasteur vis-à-vis des autres. Le fait que le pasteur puisse se marier fait notamment d'elle ou de lui une femme ou un homme comme les autres et l'arrache à la seule tutelle de l'Église. Le mariage du pasteur montre que le simple fidèle dans le monde n'obéit pas à des impératifs moraux différents et moindres par rapport au pasteur. Le mariage se trouve revalorisé par ce fait. Et le célibat et la vie monacale ne constituent plus la seule voie pour accéder au salut. Le geste de Luther, alors là on parle de Martin Luther, hein, le moine augustin du XVIe siècle en Allemagne, qui s'est révolté contre les abus de l'Église à l'époque. Quittant son couvent pour se marier, a ainsi dans l'histoire du protestantisme toute la force d'un symbole. Il a signifié plus et mieux que tout discours la vérité pratique et existentielle du sacerdoce universel. Est-ce que c'est clair ça ou c'est un petit peu compliqué? Ça va? Voilà, c'est ce que je l'ai dit tout ça. Hein. C'est-à-dire que finalement, on peut croire que les pasteurs sont simplement comme tout le monde, mais finalement, en étant comme tout le monde, on demande à tout le monde d'être un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Qu'est-ce qui encore ce matin me disait « Si toi tu arrives à faire ça, moi je devrais pouvoir y arriver ». À aller en même temps faire ça, je sais plus. À la sortie du culte, quelqu'un m'a dit ça, je sais plus pourquoi. Mais voyez, c'est aussi cette idée-là de dire, ben, c'est possible. Hein? On peut aussi servir Dieu en étant dans le monde et en faisant d'autres choses. Alors, une tension dans le public et le privé, c'est que parfois justement, on ne sait pas bien comment se tenir. Est-ce qu'il faut exposer sa vie privée, tout le temps traîner sa marmaille avec soi, son mari comme brave paroissien qui écoute fidèlement son épouse? Moi, le mien déteste ça. D'ailleurs, les paroissiens souvent me disent « on ne voit pas souvent ton mari ». Voilà. Ou bien est-ce qu'il faut cacher tout le monde dans une boîte et ne jamais les sortir de peur qu'on leur mette trop de pression dessus et qu'ils soient catalogués comme « fils d'eux », « fille d'eux » ou « mari d'eux » ? C'est un peu ça aussi la difficulté. Hein. Donc là, je crois que chacun, ma foi, essaye de trouver ses marques comme il le peut, en couple et en famille, parce que c'est pas, on décide pas tout seul, hein, on donne pas des ordres à son mari et à ses enfants si facilement. Donc voilà, c'est des décisions qui se vivent un petit peu au jour le jour, j'ai envie de dire. Hein. Trop de secrets et trop d'expositions nuisent aussi à la normalisation que requiert la fonction pastorale. Si le contenu du privé se doit de rester privé, le fait de cette vie privée ne devrait pas être voilé et ignoré. Vous voyez, on est dans les deux en fait. Hein. En même temps, on a une vie privée, mais si on la cache trop, ça devient trop sacré. Hein. On en fait quelque chose d'un peu d'intouchable et ce n'est pas le but du tout. Hein. Donc ça, c'est quand même effectivement une tension dans le ministère. Alors, par exemple, je vous lis juste cette phrase qui est intéressante, qui parle des vacances du pasteur et de son jour de congé hebdomadaire. Parce que certains disent, mais vous, enfin, vous êtes jamais en vacances. Il faut toujours être là pour les paroissiens, pour l'Église, pour Dieu. Alors, entre parenthèses, même si je suis en vacances, je suis toujours avec Dieu, hein, et avec mes paroissiens aussi, parce qu'on ne peut pas les quitter comme ça facilement. Alors, les vacances du pasteur, ainsi que son jour de congé hebdomadaire, ne sauraient être pris à la légère, ni être considérés comme anodins. Ils attestent que le ministère pastoral est toujours d'abord porté par une personne qui lui préexiste et qui ne s'y réduit pas totalement. Comprenez ça ? Hein ? C'est que avant d'être consacré, je fais exprès d'utiliser ce mot, avant d'être pasteur, on reste un humain, quelqu'un a dit tout à l'heure, hein ? On reste un homme, une femme, avec des besoins humains et une vie humaine. Et ça, c'est important. Alors, une autre tension que je partage avec vous, c'est celle de profession ou vocation. Et là, c'est aussi notre thème. Hein, parce qu'on nous dit, ben, finalement, oui, si tu prends tes jours de congé, ben, c'est un travail. Si tu comptes tes heures, ben, c'est un travail. Puisque c'est une vocation, tu ne devrais pas compter, il faudrait être disponible tout le temps. Voilà, vous voyez ? Alors oui, ça je reconnais que c'est aussi une tension, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident. Alors, la professionnalisation du pasteur atteste qu'il s'émancipe d'un modèle pastoral basé sur les seuls dévouements et dons de soi. Une importance plus grande est accordée à sa personnalité ainsi qu'à son épanouissement. L'exercice du ministère va être davantage perçu comme permettant au pasteur de se réaliser lui-même à travers une mise en œuvre de ses compétences personnelles. Ce terme de profession s'oppose à l'idée que le ministère pastoral serait uniquement la traduction d'un appel reçu, d'une vocation. Être pasteur ne consiste pas seulement à répondre à un appel, mais c'est aussi accomplir un métier, remplir certaines fonctions, assumer des tâches. Et ce terme de professionnalisation s'oppose aussi à l'idée d'amateurisme. Être pasteur exige compétence et savoir-faire. Et c'est la même chose pour les prêtres. Hein ? C'est pas juste dire, ah ben tiens, cette nuit Dieu m'a parlé, aujourd'hui je suis pasteur, il m'a demandé de devenir pasteur. Il y a aussi un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, des connaissances, hein, il y a 5 années d'études. Donc voilà, tout ça, ça a trait également à une profession. Mais bien entendu, il y a aussi une vocation, un appel reçu et entendu. Mais ça rentre en tension. Alors, j'ai presque fini, parce que j'aimerais garder un temps pour le débat. Alors, je vous relis la question. Comment concilier ministère public et vie de famille ? Alors, je vais vous poser, on va finir par une blague. Parce que ma fille aînée aime beaucoup les blagues en ce moment. Alors, heureusement, c'est les vacances, mais là, tous les soirs, en rentrant de l'école, on avait droit à 5 ou 6 blagues. Elle a 9 ans, donc ce sont encore des blagues très, très mignonnes. Alors, comment fait un Chinois pour appeler un ascenseur ? Vous connaissez cette blague ? Comment fait un Chinois pour appeler un ascenseur ? Voilà. La réponse est en appuyant sur le bouton. Alors, moi, je vais vous demander, comment fait un pasteur pour vivre son ministère en ayant une famille ? Je vais vous répondre, il prie beaucoup. Il annonce la parole du mieux possible et le plus souvent possible et s'organise un peu. Voyez, un prêtre pourrait dire, je crois, la même chose. Alors, j'espère que vous avez compris que nous sommes un, en tout cas nous le souhaitons, et en tout cas nous entendons la prière du Christ et nous la partageons, que tous soient un au service de Jésus-Christ. Merci pour votre écoute.